Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Okapi Service. Nous sommes en direct de la ville de Chikapa, chef-lieu de province du Kasaï. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort? Merci, merci. Merci de nous écouter partout à travers la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission Okapi Service en direct de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Nous allons parler aujourd'hui dans la première partie de programmes réalisés pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans le cadre du Fonds de consolidation de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, nous allons aborder la question de réinsertion sociale des ex-combattants avec le projet SS4. Toute l'équipe de production est là. Tati Mapoukou coordonne et réalise ce numéro. Paul Badianyama est au multimédia. Et JCCL est à la prise de son. Au micro, je suis Marcel Ngomombala. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Okapi Service, en direct de Chikapa, dans la province du Kasaï.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo. On va y aller avec ce magazine Okapi Service en direct de Chikapa dans la province du Kasaï. Comme vous le savez, en RDC, les Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF en sigle, a initié depuis 2020 divers projets visant la cohabitation pacifique des communautés locales après les conflits intercommunautaires ayant prévalu lors des événements de Kamouinant-Sapo. Ces projets concernent la réhabilitation des ouvrages d'intérêt communautaire tels que leurs routes, les centres de santé, certains bureaux de l'administration, de la justice, ainsi que la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle, mais aussi la promotion des droits de la femme. Quel bilan faire de ce vaste programme de consolidation de la paix lancé dans la province du Kasaï depuis 2020? Eh bien, on en parle avec nos invités qui sont déjà là. J'ai à ma droite M. Benjamin Kankou, assistant au projet à l'Organisation internationale pour les migrations OIM, sous-bureau de Chikapa. Et bon, on parle aussi d'ONU à migration. Monsieur Benjamin Kankou, bonjour.
Bonjour, Marcel.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce qu'on peut l'applaudir? J'ai également à l'extrême gauche sur ce plateau M. Davidson Wen Kaimbe, chef de division provinciale du genre famille et enfants ici dans la province du Kasaï. M. Benjamin, bonjour. M. Davidson Wen Kaimbe, bonjour.
Exactement.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut également l'applaudir? Voilà, on va y aller là, directement avec ce premier sujet sur le programme réalisé ici dans la province du Kasaï et surtout dans la ville de Chikapa pour ce qui est de la consolidation de la paix et la cohésion sociale après les événements de Kamouinant-Sapo. Alors, on va commencer d'abord avec M. Benjamin Kankou, assistant au projet à l'Organisation internationale pour l'immigration. Alors, dites-nous, M. Benjamin, à ce qui concerne l'OIM, qui a été des projets réalisés ici à Chikapa, peut-être aussi aux environs de Chikapa, dans le cadre de ce projet du Fonds de Nations Unies pour la consolidation de la paix à Chikapa.
Merci Marcel. L'OIM, depuis 2021, on est présent à Chikapa avec quelques projets. On totalise actuellement 3 projets. Le premier projet, c'est le projet police de proximité. Un projet qui s'occupe de la réforme de la police avec deux résultats. Un résultat sur l'amélioration de la sécurité de la population de la commune de Kanzala. Et le deuxième résultat sur l'intégration socio-économique et la résilience communautaire, en particulier ceux des groupes vulnérables. Et ça, c'est un projet qui a commencé en 2021 et qui a été clôturé en mars 2023. Le deuxième projet, c'est le projet SS4, comme vous l'avez souligné, le projet qui s'occupe de la démobilisation et réinsertion socio-économique des ex-combattants. Et le troisième projet qui est en cours, c'est le projet transfrontalier que nous appelons Cross-Border, qui s'occupe de la gestion du flux migratoire au niveau de la frontière entre la RDC et l'Angola. Et à ce jour, nous avons ciblé deux points d'entrée, Kamako pour la province du Kasaï et Kalambambouji pour la province du Kasaï central. Voilà les trois projets jusqu'à ce jour, qui sont pilotés par l'OIM dans la province du Kasaï.
Est-ce que vous avez connu de difficultés dans la réalisation de ce projet?
Disons que tous les projets, les deux qui sont presque finis pour les comptes de l'OIM, PDP et SS4, nous avons connu pas mal de difficultés, mais à ce jour, ce qui nous réjouit, c'est les résultats. Les résultats sont tels que, à ce jour, la commune de Kanzala bénéficie de 200 policiers formés à Chipuka en Mbujimayi. Donc, ils ont passé 5 mois de formation avant de venir à Tchikapa faire 1 mois de stage, ce qui a fait au total 6 mois, 5 bâtiments. Et 44 motos ont été aussi données à la police pour faciliter la mobilité des éléments. Et il y a eu beaucoup d'activités pour essayer de renforcer la confiance entre la police et la population. Et comme vous le savez, la population congolaise et kassaïenne en particulier n'avait plus confiance en la police après tous les événements malheureux de Kamina Nsapu. Et il était question pour nous de lutter pour enlever ces souvenirs des affres de la guerre et rebâtir la confiance entre la police et la population, ce qui a été fait. Le match de foot ont été réalisés entre des équipes mixtes constituées de policiers et de population. Il y a eu des marches de santé qui ont été réalisées sur la ville de Tchikapa, mettant ensemble la police et la population. Il y a eu aussi des concerts qui ont été animés par les orchestres composés de policiers et de population. Et aujourd'hui, on a mis en place le CLSP, qui est le comité local de paix et de proximité au niveau de la commune. Et à côté de chaque sous-commissariat, on a quatre permettant le dialogue entre la police et la population. Ce qui veut dire aujourd'hui, la question de la sécurité n'est plus une question de la police seulement, mais la population y participe. Ils réfléchissent ensemble avec la police pour trouver des pistes de solutions. Ici dans la salle, il y a beaucoup de gens qui habitent Kanzala. Ils savent que avant le déploiement de la police de proximité, il y avait un phénomène qu'on appelait base, le C4, qui était au pic au niveau de la commune de Kanzala. Mais grâce au déploiement de la police de proximité actuellement sur terrain et les équipements qui ont été mis à leur disposition, sans oublier cette façon de faire ces rapprochements entre la police et la population autour de forums de quartier, nous avons réussi à identifier le jeune à risque membre de C4 et quelques jeunes femmes victimes de violences sexuelles que nous avons pu orienter vers l'INPP. Au total, 92 jeunes. Ils ont suivi des formations dans plusieurs filières, la mécanique, la coupe et couture, la menuiserie et tant d'autres domaines. Aujourd'hui, ces gens sont utiles. Et pour votre information, il y a même une fille qui est chauffeur de taxi.
Ah bon?
Et qui a été...
C'est très intéressant, ça. Le voir être chauffeur de taxi, c'est très intéressant. Alors, on revient à vous, M. Benjamin Kanko. Le temps de me tourner vers M. Jean-Paul Kassonga, qui vient de nous rejoindre sur ces plateaux. M. Jean-Paul Kassonga, bonjour.
Bonjour.
Voilà, la même question. Mais vous pouvez d'abord l'applaudir, comme vous l'avez fait pour les deux autres. Voilà, merci d'applaudir pour M. Jean-Paul Kassonga. Alors, la même question que je posais à M. Benjamin Kakou pour ce qui est du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Quels sont les programmes qui ont été réalisés ici dans le Kassai, précisément à Chikapa et ses environs, pour ce qui est de ce projet du Fonds de consultation pour la paix des Nations Unies?
Merci beaucoup pour cette question. Je tiens avant toute chose à remercier Radio Okapi dans son émission Okapi Service.
Okapi Service, c'est bien ça.
Merci. Oui. Et tous les invités qui sont ici présents pour l'organisation de cette émission ici à Chikapa. Et merci de m'avoir invité pour parler un peu du projet SS4. En fait, je ne veux pas parler du projet ensemble, mais je veux parler du projet SS4 dans certains piliers.
Tout à fait.
En fait, le BCNUDH, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, je pense que certains parmi vous le connaissent, a mis en œuvre ici trois projets. Trois projets. Il y a un projet dont je vais spécifiquement parler. Un projet dont je vais spécifiquement parler, c'est le projet SS4 dont le collègue de l'OIM a déjà parlé. Mais ici, je vais beaucoup plus parler de du pilier justice transitionnelle et aussi de la lutte contre l'impunité. Et les deux autres projets, il s'agit des GIC et des GFJK, c'est ma collègue Virginie qui va en parler. Donc, nous avons trois projets qui ont été mis en œuvre ici par le BCNUDH.
Allez-y, parlez de ce projet. Qu'est-ce qui a été effectivement réalisé sur le terrain?
Merci beaucoup. En ce qui concerne le projet SS4, il y a la réinsertion de ceux-là que l'on peut appeler des ex-miliciens dans la vie communautaire. Mais nous avons beaucoup plus penché sur le pilier justice transitionnelle. La justice transitionnelle est un concept qui est relativement nouveau dans le commun des mortels, la compréhension du commun des mortels. Mais il s'agit notamment d'un panoplie de mesures, d'un panoplie d'actes qui rentrent en ligne de compte pour arriver à solutionner des problèmes qui sont venus après un conflit qui a créé des morts, qui a créé des dégâts au niveau matériel parmi les communautés. En fait, la justice transitionnelle met en place des procédés judiciaires et des procédés extrajudiciaires. Les procédés judiciaires, il s'agit bien entendu des poursuites communes qui sont effectuées par les cours et tribunaux, mais il y a également à côté de ces procédés judiciaires des procédés non judiciaires qui peuvent être mis en place par des groupes, des communautés. Et le but, c'est celui de recueillir le plus d'informations possibles sur la situation telle qu'elle s'est déroulée sur le terrain et aussi de récolter des témoignages des victimes et des témoins pour préparer des dossiers judiciaires qui pourraient être poursuivis par les cours et tribunaux. Alors, dans le cadre de notre projet, nous avons beaucoup plus fait des sensibilisations. Et le projet avait comme axe ou comme zone pilote trois territoires. Le premier territoire, c'est le territoire de Chikapa Kamonya. Le deuxième territoire, c'est le territoire de Luebo. Et le troisième territoire, c'est le territoire d'Ilebo. D'abord, nous avons procédé par le ciblage des zones. Le ciblage des zones, pourquoi? Parce que déjà dans le projet, il avait été défini ces trois axes-là ou ces trois zones pilotes. Et le ciblage permettait à ce que on fasse une descente sur terrain, qu'on parle avec les populations, mais aussi plutôt avec les ex-miliciens, pour comprendre aussi leur dynamique dans la réinsertion sociale et les sensibiliser, évidemment, à adhérer à une autre partie de ce projet-là qui est le relèvement communautaire et la construction des infrastructures, comme l'a dit mon collègue ici à côté. C'est ainsi que nous avons procédé à des sensibilisations, à faire la différence entre les procédés de la justice traditionnelle et de la justice transitionnelle pour que les gens comprennent. Parce qu'en fait, la finalité, c'est quoi? C'est d'arriver à une réparation. d'arriver à une réparation parce que plusieurs personnes ont été victimes. Il y en a qui ont perdu des proches, il y en a qui ont perdu des biens. Mais comment faire pour que ces communautés-là qui ne vivaient plus ensemble se remettent ensemble et que ce qui est arrivé en termes de conflits puisse être élagué? C'est au travers des procédés de la justice transitionnelle. Et c'est un projet qui, à un certain moment, s'est arrêté, mais devra continuer parce que la phase finale n'est pas encore atteinte.
Alors, vous n'êtes pas encore à la phase de réparation?
Non, non, jusque-là, nous n'en sommes pas là.
Vous êtes maintenant sur la phase de sensibilisation.
Nous avons déjà dépassé la phase de sensibilisation. Nous avons procédé à ce qu'on appelle les consultations populaires.
Tout à fait.
Les consultations populaires ont pour objectif de prendre les réactions des populations, des communautés, sur ce qu'elles pensent attendre de la justice transitionnelle. Est-ce que elles attendent que l'État fasse des réparations en leur faveur? Et quels sont ces types de réparations que les populations attendent? Parce que dans ce qui s'est passé avec le conflit Kamouena-Sapou, il y a eu des personnes qui sont décédées, il y a eu des infrastructures qui ont été détruites. Alors, la réparation concerne autant les personnes que les biens. Alors, nous voudrions, avant de faire quelque chose pour eux, savoir quels sont les besoins réels de ces populations-là. C'est ce qu'on appelle chez nous l'approche basée sur le droit de l'homme. Voilà.
Voilà. On va revenir à vous, monsieur Jean-Paul Kassonga. Là, je me tourne à l'extrême gauche, hein, pour accorder la parole à monsieur Davidson Wen KMB, chef de division provincial du genre famille et enfants ici dans la province du Kassai. Dites-nous, monsieur Davidson,
oui. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais juste parler de quelques programmes réalisés par les agences des Nations Unies pendant et après les événements de Kamouena-Sapou au Kassai. Au départ, il y a eu le forum de paix qui était tenu ici au Kassai, qui a fait que ceux qui ne pouvaient pas se regarder face à face ont eu la chance de se retrouver l'un ou l'autre jour dans une même salle. Ils ont discuté sur la situation de la paix du Kassai. Ils ont conclu, ils ont fait des propositions. Et en dehors de ça, les agences ne se sont pas limitées là-bas. Ils ont organisé des formations des leaders communautaires. Ils ont créé des clubs d'écoute des jeunes et des femmes. Ils ont encore renforcé la capacité des femmes médiatrices. Et au moment où nous parlons, ceux qui ne pouvaient pas manger ensemble ou se saluer commencent maintenant à se fréquenter et la vie est retournée à la normale.
Donc à ce stade, on peut dire que la cohésion sociale au niveau des communautés qui, avant, comme vous avez dit, vivaient en chien de défaillance, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une parfaite harmonie. Hein,
Exactement, il y a une harmonie. Il y a une harmonie. Même le chef coutumier qui avait des propos discriminatoires, au moment où parlons, ils ont changé un peu leur position. Ils ont changé leur position. Ils commencent même à inviter les non-originaires à habiter leur village.
Donc toutes les communautés ont compris de l'intérêt de vivre en paix, de vivre pacifiquement, c'est bien cela.
Exactement. Ils ont tiré quelques conséquences de la guerre. Ils ont compris que la guerre n'est pas bonne.
Alors, quelle a été votre implication, parce que vous êtes chef de division, professionnel, gens, famille et enfants, quelle a été votre implication, ou bien l'implication de votre ministère pour ce qui est vraiment des droits des femmes, des enfants?
Oui, concernant les droits des femmes, les droits de l'enfant, commençons par les droits de l'enfant. Il y a eu l'accompagnement.
Oui.
Il y a eu l'accompagnement des enfants non accompagnés. Nous avons fait la réunification familiale pour certains enfants qui étaient en rupture avec leur famille. Nous avons mené des plaidoyers pour la prise en charge des cas de violence basée sur les genres. Il y a eu la création des familles d'accueil. La formation même de monsieur membre de ces familles-là. Il y a eu aussi l'appui de ces familles-là qui ont eu à garder les enfants pendant autant de mois.
Voilà, ça c'est vraiment, comment dire, une très très bonne nouvelle de savoir qu'après ces événements des Kabou dans Sampo, il y avait tous ces conflits intercommunautaires. Aujourd'hui, on sait voir qu'il y a les différentes communautés qui peuvent vivre en parfaite harmonie. Et puis, il y a également cet appui du système des Nations Unies
à travers ces agences
qui ont pu vraiment consolider la paix. Alors, on va se tourner vers la salle pour recueillir vos questions. J'espère que vous avez déjà préparé des questions. Mais avant de vous accorder la parole, je m'en vais rapidement lire cette réaction sur la page Facebook au Capi Service par rapport à ces sujets. C'est Bilofar Bilolo qui nous écrit, tiens, depuis la ville de Chika, pardon, il est ici. À mon humble avis, la pacification de la province du Kassai suite aux exactions commises par l'ensemble de cette population, c'est un problème communautaire qui devait être résolu de manière adéquate pour éviter que la population soit dans les querelles fratricides, stériles, qui n'ont pas l'impact positif pour l'émergence de la province. Alors, question, si le programme sur la consolidation de la paix existe réellement jusqu'à ces jours, pourquoi il y a des tueries dans des villages dont ce programme a été lancé? Et une deuxième question, excusez-moi, le bilan de ce programme n'a rien apporté comme changement juste après ces massacres. Pourquoi la société civile de la province se plaint à chaque fois dont la population est traitée sans sécurité? Voilà, ça c'est une réaction qui nous est parvenue sur la page Facebook Happy Service. Nos intervenants vont réagir à tout à l'heure. Mais en attendant, est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle?
Merci beaucoup. Je suis Willy Dewey Kamboulou, journaliste et rédacteur en chef à la radio Les Ondes du Progrès Chikapa. J'ai une question, celle-ci, je la pose à Monsieur Benjamin de l'OIM. Il a dit que dans le cadre des trois projets qu'ils ont initiés ici dans la province du Kassai, il y a eu l'un qui s'est attelé surtout sur la police de proximité. Il y a eu des bureaux qui ont été construits ici et des motos dotées à la police pour faciliter la confiance entre la population et la police. Mais les conflits là de Kamwenansapu, ça s'est passé, ça a beaucoup dérangé les milliers ruraux, dans des milliers, dans des brousses là, c'est là où il y a eu surtout ces genres de troubles. Pourquoi la police n'est pas vraiment renforcée dans des milliers comme ça? Parce que là-bas, il n'y a pas la sécurité. C'est là où la population est beaucoup plus tuée, c'est là où la population a été beaucoup plus victime. Pourquoi ce projet-là a beaucoup plus concerné la ville que les milliers ruraux? Merci beaucoup.
Jean-Luc Bakampinda, journaliste à la radio Kilimandjaro, directeur des informations. C'est dans le même sens avec Willy, mais je voulais être très précis dans le sens où le phénomène Kamwenansapu a touché des coins tels que les territoires de Chikapa. Aujourd'hui, lorsque vous parlez d'unifier avec des dialogues qui regroupent les leaders communautaires, nous constatons, nous faisons des remarques telles que la plupart de ceux qui sont ciblés sont ceux qui ne sont pas intéressés dans ces conflits. Et pourtant, nous le savons tous, on ne peut pas créer on ne peut pas résoudre un problème à créer un autre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que très dernièrement, vous avez suivi dans des radios, les victimes de la guerre de Kamwenansapu ont clairement dit que les bénéficiaires de la plupart des dons sont ceux qui ne sont pas été des vraies victimes. Est-ce que vous êtes informé et qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que ça risque encore de créer un autre problème. Deuxième question à mon frère de OIM. Outre le problème de Kamwenansapu, nous connaissons au Kassai des conflits communautaires. Très dernièrement, nous avons connu à Mweka et à Ilebo. Est-ce qu'il y a un projet du genre? Est-ce que vous attendez seulement qu'il y ait un conflit pour intervenir? Pourquoi ne pas prévenir lorsque ça s'annonce déjà à Mweka ou à Ndekese? Merci.
Merci. Une autre question dans la salle. Il faut également que les femmes posent des questions. Je vois, il n'y a que des hommes qui posent des questions. Benjamin, la police, vous êtes seulement intéressé au centre urbain et non dans les milieux ruraux?
Merci pour la question. Merci à Willy pour sa question pertinente. Cher Willy, le projet n'a pas seulement touché la ville. C'est vrai que la zone cible, c'était Chikapa. Comme vous le savez, le fonds PBF finance des projets pilotes. C'est-à-dire, il finance des projets pour inciter aux autres bailleurs de voir qu'il y a un besoin et que les résultats qui ont été produits, il y a lieu de continuer à financer pour résoudre le problème dans sa globalité. Et donc ici, le projet PDP s'intéressait à la commune de Kanzala, mais il y a eu des activités qui ont bénéficié aux policiers de l'intérieur, comme vous l'avez dit, de tous nos cinq territoires. Il y a eu deux formations. La première formation, c'était la formation des officiers sur tous les contours de l'approche police de proximité. Et il y a eu une deuxième formation qui avait réuni aussi tous les policiers de 5 territoires sur les notions de droits de l'homme, le VBG et tant d'autres notions de protection. C'est-à-dire, on ne les a pas oubliés. Il fallait commencer par là, bien que notre zone d'intervention, c'était Tchikapa. Aussi, il faut dire que Tchikapa a, bien que les conflits, comme vous le dites, on ne l'a pas senti ici en termes d'incendie des maisons et autres, mais tous les gens qui vivaient dans ces villages ont fui et ils sont venus ici à Tchikapa. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de cas de banditisme juste après les conflits. Il y a des villages qui sont vidés et toutes ces personnes, la majeure partie, se sont orientées vers les centres-villes. C'est qu'il fallait attaquer le problème, voir comment mettre ces décans, la population et les autorités ensemble, essayer de rétablir la confiance autour de cette doctrine police de proximité. Et aujourd'hui, je t'annonce aussi que Mabondo, qui est l'une des communes un peu rurales, hein, parce qu'il y a des parties de villages de Mabondo qui sont dans des villages, a été ciblée par l'Union européenne pour la phase 2 du projet. C'est-à-dire le projet PDP a joué son rôle de projet catalyseur. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais je peux aussi toucher la question de John pour lui dire que les conflits, comme vous l'avez dit, à Mweka, il y a d'autres agences qui ont des interventions là-bas, notamment le HCR. Et vous savez qu'il y a des notions de protection qui sont là-bas. Je ne saurais pas développer les activités de l'agence parce que je ne connais pas le contenu, mais il y a quelques agences qui sont là-bas. Bien avant cela, il y a eu d'autres ONG comme Interpis, APC, NRC qui sont intervenus dans la zone. Et donc, on n'attend pas les conflits, on prévient avec certaines activités de renforcement de capacité, de sensibilisation, pour aider la population à inculquer ces notions de culture de la paix. Aujourd'hui, nous avons le projet CESCAT que Jean-Paul a soulevé. Nous, OIM, on est intervenu sur deux phases de volets. Il y a le volet renforcement de capacité des radios locales. On a formé les journalistes, au total 60 journalistes ont été formés dans le territoire de Mweka, plutôt Luebo, Ilebo et Kamonya. 6 radios communautaires, je dis bien 6 radios communautaires, ont bénéficié des équipements complets pour faciliter la diffusion de messages de paix. C'est bien, on peut tout faire, mais après le projet, nous pouvons partir. Qu'est-ce qui va rester dans la zone? Aujourd'hui, nous avons 60 journalistes formés sur la diffusion de messages de paix avec des radios dont les capacités d'émission ont été renforcées. La radio qui s'est limitée à 7 km, aujourd'hui peut émettre jusqu'à 30, 40 km.
Voilà, il y avait également cette question pour Monsieur Jean-Paul Kassonga de Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Alors, il semblerait que l'aide passe à côté des victimes, de vraies victimes qui devaient être de vrais bénéficiaires.
Merci beaucoup pour cette question. J'ai encore oublié le nom. Jean-Luc Bakampeta. Je crois qu'il s'agit peut-être d'une mauvaise diffusion de l'information. Parce que, comme vous l'aviez dit ici en posant la question, est-ce que vous êtes déjà arrivé à l'étape de la réparation? J'ai dit non. Jusque là, le BCNUDH, dans son pilier justice transitionnelle ou même lutte contre l'impunité, n'a pas distribué les dons. Et ce n'est pas ça notre vocation de distribuer les dons. Je crois peut-être qu'il y a une confusion entre ce que le PAM fait avec ses partenaires et ce que le BCNUDH est en train de faire. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas match parce que nous n'avons rien distribué. Jusque-là, nous sommes dans une étape où nous avons fait des consultations populaires, où nous devrions récolter les avis de victimes, des communautés, sur ce qu'elles pensent, comme réparation de la part de l'État. Et je disais que il y a des pourparlers pour que les autres phases suivent. Et c'est dans ces phases-là qu'on verra quelles sont les réparations et quelles sont les victimes. Parce que il y a aussi ce problème-là très sérieux de qui est réellement victime de Kamwina Nsapu, étant donné qu'il s'est passé du temps entre les faits et les réparations possibles qui pourraient se faire. Et puis, je voudrais bien préciser une chose. Ce n'est pas les Nations Unies qui vont réparer, mais c'est plutôt le gouvernement congolais qui va passer par la réparation. Et pour votre information, il y a déjà une loi votée pour la réparation des victimes des violences sexuelles. Donc je crois qu'il y a des choses à préciser par rapport à ça, et c'est pour cela même que notre projet a commencé par de sensibilisation pour faire comprendre aux gens que, par exemple, le PBF ne vient pas pour couvrir tous les besoins ici au Kasaï, par exemple.
Le PBF, c'est ce projet des Nations Unies pour la consolidation
bien entendu, de la paix. Bien entendu, je vais parler des projets de consolidation de la paix des Nations Unies, oui. Ne viennent pas pour couvrir tous les besoins. Mon collègue l'a si bien dit, c'est comme un stimulateur. Donc il y a des zones pilotes, on intervient pour susciter d'autres bailleurs de fonds à venir et aussi couvrir d'autres besoins qui se présentent. Donc je crois que là vous mettez un peu la charrue devant le bœuf. Nous allons y arriver petit à petit, et comme vous êtes journaliste, vous êtes toujours joint à nos activités et vous serez informé de la suite des choses. Merci.
On avait cette question sur la page Facebook. J'avais lu cette question de Bill Lofar, qui a demandé si le programme sur la consolidation de la paix existe réellement jusqu'à ces jours. Pourquoi y a-t-il des tueries dans des villages dont ce programme a été lancé? Vous êtes au courant de des tueries dans des villages où le programme a été lancé?
Bien entendu, les tueries, c'est comme on les rapporte sur l'ensemble du territoire national. Il n'existe pas un seul pays au monde où il y a la criminalité zéro. Ça n'existe pas. Donc la criminalité dans les villes, la criminalité dans les villages, ça existera toujours autant que des conflits existeront. Et comme mon collègue l'a si bien dit, notre rôle, c'est aussi de prévenir qu'il y ait des conflits. Et les conflits font partie de la vie sociale des gens. Quand deux personnes, quand deux communautés vivent ensemble, les frictions existent toujours et ainsi des conflits viendront. Et si ces conflits ne sont pas bien gérés, naturellement, il y aura toujours des catastrophes qu'on va déplorer, il y aura toujours des morts. Et nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour essayer de prévenir ce genre de conflits, mais nous n'avons pas la prétention de faire zéro conflit, de faire zéro mort, de faire zéro cadavre ou zéro catastrophe naturelle.
Voilà, là je vais me tourner vers Benjamin. Il y a une autre question de toujours ce monsieur qui nous écrit sur la page Facebook de Capi Service, et Bill Lofar qui dit si le programme... Non, il dit plutôt le bilan de ce programme n'a rien apporté comme changement. Juste après les massacres, pourquoi la société civile de la province se plaint à chaque fois dont la population est traitée sans sécurité?
Ok, je pense que l'ami n'est pas informé. Parce que lorsqu'il parle de la société civile, je ne sais pas de quelle société civile il parle. Les agences ne mettent pas en œuvre toutes les activités de projet seules. On les fait avec l'appui des organisations de la société civile. Et je suis étonné qu'ils disent que la société civile se plaint. C'est de quelle société civile? Le projet, par exemple, SS4, l'OIM l'a mis en œuvre avec l'appui du partenaire Raprodoc, qui est membre de la nouvelle société civile. C'est lui-même le coordonnateur qui est le président de la nouvelle société civile, coordonnateur provincial. Je ne sais pas c'est de quelle société civile dont il parle. Lorsqu'il faut parler, par exemple, du projet SS4 dans le Kasaï central, c'est avec Benprodec que nous avons implémenté les activités. Aujourd'hui, ici, même dans notre province, il faut parler de ce que PNUD a fait dans le projet SS4 dans le cadre de la réhabilitation de routes et de sites agricoles. C'est avec l'ONG AIDES, Benprodec, et donc c'est avec les organisations de la société civile que nous mettons en œuvre les activités, parce que aujourd'hui le projet peut finir, nous pouvons partir, mais si les organisations de la société civile sont renforcées à capacité, ils peuvent continuer avec les activités. Mais aussi dire que le bilan est zéro, ça c'est trop fort, parce que aujourd'hui voir 200 policiers qui n'avaient jamais bénéficié d'une formation de base en tant que policiers. C'est-à-dire ils ont été aussi récupérés comme ça, pas une formation, mais aujourd'hui, ces gens ont été mis dans un moule, ils ont été transformés, et nous avons des témoignages, s'il a besoin d'avoir d'autres informations, il n'a qu'à passer vers, pas à l'OIM, je l'oriente vers les bureaux de la police qui sont construits ici, la ville de Chikapa, commissariat de référence Kanzala, à côté de la station Titan. Il peut aller échanger avec les policiers, leur demander qu'est-ce que ce projet vous a apporté. La DGM, par exemple, ils ont été formés sur la détection de faux documents au niveau de postes de frontières. dans le cadre du projet cross-border. Mais je peux vous dire qu'il y a eu plus, on avait prévu de former 20 agents, mais nous sommes allés à 64 agents ici parce que le besoin était énorme. Ils ont dit, est-ce qu'on aura la chance de voir encore un partenaire venir avec ce genre de formation? C'est l'occasion pour nous de profiter et nous sommes partis de 20 à 64 agents. Est-ce que ça, on peut dire que le projet est bilan zéro? Je ne pense pas.
Voilà. Je me tourne vers Monsieur Davidson Wankaime. Alors, dites-nous, l'appropriation de la population. Comment l'État congolais se prépare pour que tous ces projets, après les départs des agences, enfin de ceux qui travaillent là-dessus, des agents des Nations Unies, que l'État congolais puisse vraiment s'approprier tous ces projets pour qu'après qu'on ne dise pas qu'après les départs des agences, tout redevient comme avant?
Oui, et pour l'appropriation de tout ce qui a été fait avec les concours des agences, les gouvernements du Kasaï à travers le service technique, nous avons déjà pris une disposition là-bas. Nous organisons des suivis, nous organisons des réunions mensuelles avec certaines structures qui avaient été créées avec l'appui des agences pour que cela puisse devenir durable.
Voilà, on va encore se tourner vers le public qui est dans cette salle, ici à Tshikapa, dans la province du Kasaï, pour parler de cette question sur le programme réalisé par les agences des Nations Unies ici à Tshikapa, dans le cadre du programme du fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions encore là? Est-ce qu'il y a des gens... voilà, peut-être il y a trois mains qui se sont levées de l'autre côté. Ils aimeraient bien poser des questions.
Moi, c'est M. Bosco Yamba. Je suis le coordonnateur national de la structure dénommée Encadrement de la jeunesse congolaise, une structure de la société civile. Et puis moi, je voulais pas vraiment poser la question, mais je voulais seulement... essayer de conscientiser, donc de nous conscientiser nous-mêmes sur ce qui a été fait par les agences des systèmes des Nations Unies, donc BCNEDH, OIM, ONIFAM, et ainsi de suite. Parce que déjà, ONIFAM, donc les agences des systèmes des Nations Unies viennent en appui. Mais le vrai problème, c'est nous-mêmes, nous qui sommes Congolais, nous qui sommes Kasaïens, donc c'est à nous de nous approprier ce qui a été déjà fait. C'est vrai que la zone a été touchée et déchirée par ces mouvements insurrectionnels de triste mémoire, mais maintenant c'est à nous de voir, avec les appuis des multiples formations que nous avons reçues à travers ces projets-là, je parle des JICO, je parle des SS4 et ainsi de suite, on a même eu à renforcer nos policiers donc qui présentaient des anomalies, donc les anciennes nos habitudes, on a banni ça. On a formé maintenant notre police qui est appelée, n'est-ce pas, à collaborer avec la population. Eh bien, aujourd'hui, c'est à nous maintenant de faire preuve de maturité et de pérenniser ces activités. Alors, je ne vais pas parler, pointer du doigt une autre personne pour ne pas parler de moi-même. Moi, là, et après les multiples formations que nous avons reçues, des multiples ateliers de formation à travers lesquels nous avons eu la chance de participer, je me suis dit, bon, oui, ça c'est bon. Et j'ai découvert là-bas des résolutions telles que 1325 qui parlent des droits de la femme, des résolutions 2250 qui parlent de la jeunesse. Et on a même eu, c'est à travers des ateliers. Donc la constitution existe, mais à travers les ateliers que j'ai découvert qu'il y a l'article 42 dans la constitution qui protège les droits des jeunes, donc qui impose au pouvoir public de protéger le jeune, alors qu'on a des beaux textes qui ne sont pas vraiment mis en pratique. C'est à travers ça. Alors comme nous avons maintenant eu cette conscience, nous devons pérenniser. Et je me suis dit, bon, au lieu de rester en l'air comme ça, il faut mettre en place une structure. Moi-même, je vais prendre le temps d'informer à nos amis ce qu'il faut faire en tant que jeunes et de ce que nous devons contribuer pour le développement de la nation. Parce que nous ne sommes pas juste des observateurs ou des attentistes, mais nous sommes les acteurs dans la société pour les changements de la société. Et du coup, je me suis dit, voilà, il faut mettre en place une structure. Et j'ai mis une structure qui s'appelle aujourd'hui Encadrement de la jeunesse congolaise, avec comme objectif principal...
On peut applaudir pour voilà. M. Bosco.
Et du coup, avec l'objectif principal de lutter contre le tribalisme et l'instrumentalisation de la jeunesse pour les changements de mentalité. Donc moi, j'avais compris que les problèmes, d'abord, c'est l'état mental, l'état psychique. Lorsque vous nourrissez la personne sur l'état mental et les restes des choses, ça va arriver avec facilité. Donc moi, je pose pas la question. Je me suis interpellé comme ça. Merci.
Voilà, merci. Une autre question, une autre préoccupation dans la salle.
Oui, c'est M. Désiré Kouaïboubara. Je suis étudiant à l'IST Tshikapa. Moi, je tiens à remercier les agents du système des Nations Unies. Parce que dans les territoires touchés par exemple Kamonia, il y a quand même retour de déplacés, les habitants qui étaient là-bas, parce que Kamonia a d'abord été l'épicentre des attaques de Kamuina-Nsapu. Alors, avec l'organisation, avec le projet de l'OIM, il y a eu des danses communautaires. Chaque communauté a présenté ses danses et ça fait que la population puisse rentrer. Mais la question se pose à quel niveau? Les centres, les villages qui ont été attaqués, les villages entiers qui se sont transformés en milices. Jusque-là, les villages Duboko, Moutena, Sumbula, il n'y a aucune action sur ce plan. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, chaque jour ou après chaque semaine, nous suivons toujours que ces jeunes gens-là sont en brousse, ils ont fait ça, ils ont attaqué tel voyageur, telle personne. Voyez-vous qu'il faut se limiter là-bas, bien que le gouvernement a cette responsabilité de continuer. C'était celle-là ma question.
Voilà. Et une autre question. Tati, devant, il y a une main. Ah, il y a. Enfin, je suis heureux qu'il y ait une dame qui va parler. Et vous présentez, vous posez votre question. Vous voulez bien vous lever?
Merci. Je suis sanctifiée Ngalula Fouamba. Ce que moi, je voulais savoir, c'est quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour pouvoir lutter contre ces conflits communautaires qui, jusque-là, c'est pas vraiment fini, mais qui existent encore, bien que les projets exécutés, mais il n'y a pas longtemps, nous avons entendu qu'il y avait encore des conflits du côté Kakenge, il y a encore des petits conflits du côté Mweka, là où vraiment c'était touché. Alors, quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour pouvoir consolider cette paix qui doit être vraiment durable au Kasaï? Merci.
Est-ce qu'on peut encourager la dame? Et, voilà, il y a d'autres questions.
Oui, merci beaucoup. Moi, c'est M. David Ntumba. Je suis étudiant à l'IST Kapa. Je commence par remercier d'abord la Radio Kapi pour avoir nous accordé cette opportunité. J'ai une question à poser à M. Benjamin. À ce qui concerne la zone d'intervention, vous avez dit, c'est ici à Tikapa, vous êtes beaucoup plus focalisé. Je suis de Djibumba, je vis là où il y avait encore des conflits. À Djibumba, il y avait eu un groupe de jeunes qu'on appelait Ekiriba Nambembe. Ces jeunes garçons ont causé du tort à d'autres jeunes de fréquenter ou de vaquer librement dans la colline de Djibumba. Et voire même nous qui sommes de Djibumba, on se voque difficilement aussi jusqu'à ces temps dans la colline de Kélé. D'où des organisations pour la cohabitation pacifique de ces jeunes-là. Jusqu'à présent, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez prévu pour Djibumba? Votre projet tend vers la fin, qu'avez-vous prévu pour Djibumba? Je pose ma question au représentant de l'État congolais. J'ai encore oublié le nom.
Monsieur David.
Oui. Ma question est de savoir qu'est-ce qui est prévu pour que prochainement, qu'est-ce que l'État a prévu? Parce que ce sont les chefs coutumiers qui ont instrumentalisé la jeunesse en fait que ces conflits aient lié. Qu'est-ce que l'État a prévu de face à face avec les chefs coutumiers pour leur apprendre à ne pas utiliser la jeunesse dans des conflits? Qu'est-ce que l'État a prévu prochainement pour que de pareils conflits ne puissent plus revenir chez nous, chose qui nous a fait perdre beaucoup de choses? Merci beaucoup.
Voilà, merci. On revient sur ce plateau pour que le panéliste puisse répondre. Monsieur Davidson, vous pouvez peut-être réagir puisque la dernière question vous a été adressée par rapport à ce que l'État congolais compte mettre en place de façon que ces conflits ne puissent plus revenir. Parce que vous avez suivi, il y a encore certains coins à travers la province du Kasaï où le conflit persiste encore.
Oui, merci pour la question. Le gouvernement du Kasaï, pendant tous ces temps, collabore avec les chefs coutumiers. Et au moment où nous parlons, les chefs coutumiers ont même leur bureau au niveau de Kamalenge. Dans ce bureau-là, c'est toute une coordination qui encadre le chef coutumier. Avec cette coordination-là, les chefs coutumiers suivent quand même des informations là-bas sur la cohabitation pacifique. On les forme même sur les droits, ce qu'il faut respecter, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça, ça se passe toujours dans la salle de Boupolé là-bas. C'est une initiative qui est venu du gouvernement, mais avec l'appui des partenaires, les partenaires ont appuyé la construction de ce bâtiment-là. La coordination est toujours en collaboration avec les différents chefs coutumiers pour qu'ils ne puissent pas revenir sur tout ce qui était fait dans les années antérieures.
Maintenant, laissons entendre qu'il y a encore... Ils vont répondre, les panélistes... Non, je continue encore avec M. Davidson. Maintenant, on a, laissons entendre, pour l'instant, il y a encore des conflits qui persistent. À votre niveau, par exemple, l'état du au niveau du gouvernement provincial, et comment vous essayez de trouver des solutions pour des endroits où le conflit existe encore? Parce que s'il y a déjà certains coins, prenons le cas de Chicapa, en tout cas, suivant les témoignages du public à Chicapa, oui. Il y a tout de même des choses qui se sont améliorées, les gens vivent paisiblement, mais il y a deux intervenants dans la salle qui ont soulevé qu'il y a encore deux coins où les conflits persistent.
Oui, le gouvernement travaille en collaboration avec les ONG. Nous savons bien que tout ce qui a été fait en ville comme à l'intérieur, c'était en collaboration avec les ONG. Nous avons des ONG qui ont travaillé à Mouchima, par exemple, qui ont travaillé à Lunyeke, à Moutena. Mais nous ne pouvons pas dire que les ONG ont tout terminé, puisque ce sont des grands problèmes qui se posaient là-bas et qui ne pouvaient pas se terminer le même jour ou la même année. Le travail est en train d'être fait dans toutes ces localités-là pour que la population puisse vivre en harmonie.
Voilà, on passait le micro à M. Jean-Paul. Vous avez suivi Jean-Paul Kassonga. Il y a un intervenant dans la salle qui a parlé de Kamounia, par exemple, où c'était l'épicentre, de tous ces conflits intercommunautaires. Et il y a un autre qui a soulevé le fait qu'il est encore du coin. Où je posais la même question à M. Davidson, nous les conflits persistent. Aller chercher à savoir est-ce qu'il y a des stratégies au niveau des agences qu'on pourrait mettre en place, en tout cas pour trouver des solutions à ce que ces conflits puissent en tout cas définitivement être résolus.
Merci beaucoup. Je ne voudrais pas utiliser dans mon langage définitivement, le concept de définitivement. Je voudrais bien l'éviter parce que je n'aime jamais dire jamais. En fait, qu'est-ce que je voudrais dire?
Oui.
Le conflit en soi, il n'est pas très mauvais lorsqu'il est pris dans le bon sens. Je ne voudrais pas développer cette théorie ici parce que c'est une théorie d'école. Mais je voudrais plutôt revenir à ce que j'ai dit auparavant. Il n'existera jamais une société où il y aura le taux de conflit zéro. Mais au niveau des agences du système des Nations Unies, nous avons toujours et nous les faisons encore... Nous avons mis en place ce qu'on appelle de mécanismes d'alerte précoce. Ces mécanismes d'alerte précoce, c'est des personnes comme vous, c'est des structures qui sont basées dans des milieux que vous venez de citer, qui, lorsque il y a des rumeurs ou des bruits d'un conflit, quel que soit son genre, les informations ou les allégations sont remontées directement au niveau des agences. Et les agences travaillent en partenariat avec le gouvernement pour que des solutions idoines soient trouvées. Parce que plus vite l'information est reçue, plus vite des mesures peuvent être prises et mieux la situation peut être gérée. Donc, je vous appelle à vous également.
Est-ce que Jean-Paul, il y a moyen d'expliquer comment fonctionne ce système d'alerte?
Bien entendu. Le système d'alerte fonctionne de cette manière. Nous avons ce qu'on appelle des points focaux dans les villages que vous venez de citer et dans d'autres villages. Et lorsque ces points focaux-là ont une information ou même une allégation, parce qu'une information, elle est vérifiée, une allégation peut être assimilée à une rumeur. Lorsqu'il y a une information ou une allégation sur une prétendue résurgence d'un conflit, ces personnes-là ont nos numéros ou d'autres numéros verts. Ils nous appellent au travers de ces numéros et nous les rappelons pour faire ce qu'on appelle la triangulation de l'information. La triangulation de l'information voudrait que nous posions la même question à trois personnes au moins pour avoir la même quintessence des faits. Et lorsque cette triangulation est faite, nous remontons au niveau des autorités compétentes avec qui nous sommes toujours en collaboration et en contact et on partage l'information. Au-delà du partage de l'information, nous avons des réunions thématiques sur les conflits, sur les violences sexuelles, sur l'impunité, que sais-je encore. Et au travers de ces réunions, on essaie de monter des mécanismes en termes de réaction ou d'action pour prévenir ou alors pour arriver à mettre fin à des situations qui peuvent arriver. Voilà comment fonctionnent les mécanismes d'alerte précoce. Alors, il y avait une autre question de Monsieur Désiré Yamba, si je ne m'abuse pas, qui se demandait si on s'arrêtait seulement à Kamounia. Et comme mon collègue l'a si bien dit, le fonds de consolidation de la paix donne des fonds, si je vais me répéter, permettez-moi cette redondance, pour des zones pilotes. Et comme je l'ai encore dit ici, ces fonds-là n'ont pas la prétention, ce serait très prétentieux de dire que nous allons couvrir ou ces fonds-là vont couvrir tout l'espace kassaïen. Non, ça ne pourra pas tout couvrir. Mais déjà, ce sont des zones pilotes et pour votre information, les personnes qui vivent dans ces milieux que vous avez cités, certaines personnes sont invitées à des ateliers ou à des activités qui sont organisées, soit à Kamounia Centre, soit ici à Tchikapa, pour ensemble réfléchir sur les problèmes qui sont les leurs et ainsi ramener ces problèmes-là au niveau des décideurs afin que des solutions idoines soient trouvées. Notre souhait serait que tout le monde s'engage dans ce processus-là, qu'il n'y ait pas simplement des victimes, mais que les bénéficiaires se placent dans une position où elles sont des solutions, où elles proposent des solutions, et ça c'est dans l'intérêt de la pérennisation de ces actions-là. De cette façon-là, on sait au moins être sûr que, une fois que les fonds ne seront plus disponibles, la population, les autorités seront à même de prendre la relève et de continuer avec la situation. Donc, nous espérons que, ensemble avec vous, nous allons continuer de faire le travail qui est le nôtre et de toucher le plus possible des coins qui ont été touchés. Merci. Nous avons appuyé le tribunal des grandes instances de Tchikapa en chambre foraine à Kamounia pour évacuer certains dossiers dont les prévenus étaient ici à la prison et la justice n'avait pas les moyens de les amener pour les juger et aujourd'hui c'est chose faite. Donc je crois que ça c'est notre travail de tous les jours et nous allons continuer à le faire. Il est évident, comme le collègue l'a si bien dit, les besoins sont multiples et dans notre cas nous sommes en train de faire une étude de priorisation des dossiers. Et d'ailleurs, sur cela, il y a un cadre de concertation qui réunit la justice militaire et la justice civile pour voir quels sont les dossiers prioritaires, autant dans ce qui s'est passé dans le conflit Kamouina-Sapou que d'autres dossiers qui concernent les crimes graves, parce que c'est ça notre domaine, pour voir comment est-ce que, ensemble avec le PNUD et les autres agences qui travaillent dans le système, comment appuyer les autorités judiciaires à aller de l'avant avec des dossiers. Et ainsi, l'objectif, c'est d'arriver à avoir des jugements, d'arriver aussi à avoir de la réparation pour les victimes. Et pour la justice transitionnelle, je vais chuter par là, nous sommes en train de discuter au niveau de Kinshasa déjà sur la suite des activités. Parce que, comme je le disais, il y a déjà un travail très important qui a été fait avec les consultations populaires. Et la suite, ça va être la validation des résultats de ces consultations-là. Et de la suite de cette validation-là, on va voir si il sera important de mettre sur pied une commission provinciale justice et réconciliation. Et cette commission aura évidemment pour rôle d'écouter les victimes potentielles, d'écouter les témoins, et même pourquoi pas ceux-là qui ont été versés dans ces phénomènes-là pour voir quelles sont les solutions à apporter par rapport à cela. Donc, nous sommes toujours à vos côtés et nous continuerons à travailler dans ce sens-là.
Vous voulez bien applaudir pour Jean-Paul Kassonga et on va conclure, c'est avec ce mot de Monsieur Davison Wen Kaimbe, chef de division provinciale du genre famille et enfants, et que nous mettons un terme à cette première partie de l'émission Capi Service ici en direct de Tchikapa dans la province du Kassai. Sous vos applaudissements. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci à nos invités d'être là. Merci.